L'angoisse afflua au cœur du prévôt. Ah, le pénible dîner!
« Jamais, messire Baglioni, jamais! Qu'allez-vous penser?
Allons, allons, prévôt! D'où vient tout ceci ? » s'écria Guccio en désignant la table.
« Les jambons, que je sache, ne viennent pas tout seuls se pendre à votre heurtoir. Et vos sergents ne sont pas prospères comme on les voit à seulement lécher la fleur de lys de leur bâton. »
Si j'avais su, pensa Portefruit, je l'aurais moins bien traité.
« C'est que, voyez-vous, répondit-il, si l'on veut maintenir l'ordre dans le royaume, il faut nourrir honnêtement ceux qui ont charge d'y veiller. »«
Assurément, dit Guccio, assurément, vous parlez comme il faut. Un homme nanti d'un si haut office que le vôtre ne doit point raisonner comme les gens du commun, ni ne saurait agir de leur façon. »
Il devenait soudain approbateur, amical, et paraissait se rendre entièrement aux vues de son interlocuteur. Le prévôt, qui avait bu à suffisance pour reprendre courage, donna dans le panneau.
« Ainsi, pour les tailles d'impôts, » reprit Guccio.
« Les tailles ? » dit le prévôt.
« Eh bien oui, vous les avez en fermage. Or, il faut que vous viviez, que vous payiez vos commis. Alors, forcément, vous devez prélever plus que ce qui vous est requis par le trésor. Comment vous y prenez-vous ? Vous doublez la taille, n'est-ce pas ? C'est ce que font à ma connaissance tous les prévôts. »
« À peu près, » dit Portefruit, se laissant aller parce qu'il pensait avoir affaire à quelqu'un d'averti. « Nous y sommes bien obligés. Déjà, pour avoir ma charge, j'ai dû fourrer la paume à l'un des commis de Marigny. »«
Un commis de Marigny, vraiment ?»«
Eh oui, et je continue de lui glisser une coquette bourse à chaque Saint-Nicolas. Il me faut aussi partager avec mon receveur, sans parler de ce que me regratte le bailli, qui est au-dessus de moi. »
Au bout du compte, il ne vous reste pas tellement pour vous-même, j'entends bien. Alors, prévôt, vous allez me porter aide, et moi, je vais vous proposer un marché où vous ne perdrez point. Je suis en peine pour nourrir mes commis de Naufle. Chaque semaine, vous leur délivrerez en sel, farine, fèves, miel et viande fraîche ou séchée. Ce qu'il aurait besoin est qu'ils vous paieront au meilleur prix de Paris, avec encore un petit surcroît de 3 sols à la livre. « Je me dispose même à vous laisser 20 livres d'avance, » dit-il en faisant sonner sa bougette.
Le tintement de l'or acheva d'endormir la défiance du prévôt. Il discuta un peu pour la forme, les poids et les prix. Il s'étonnait des quantités demandées par Guccio.
« Vos commis ne sont que 3. Leur faut-il vraiment tant de miel et de pruneaux ?
Oh, je peux fournir. »
Comme Guccio souhaitait emporter sur le champ quelques provisions, le prévôt le conduisit dans sa réserve qui ressemblait fort à un entrepôt. Maintenant que le marché était conclu, à quoi bon dissimuler ? Et d'une certaine manière, le prévôt éprouvait de la satisfaction à montrer impunément, croyait-il, ses trésors alimentaires. Le nez en l'air, les bras courts, il s'agitait parmi les sacs de lentilles et le pois sec, humait les fromages, caressait de l'œil les chapelets de saucisses. Bien qu'il eût passé 2 heures à table, il semblait que l'appétit lui fût déjà revenu.
« Le gaillard mériterait qu'on le vienne piller à coups de fourche, » pensait Guccio.
Un valet prépara un fort paquet de victuailles qu'on dissimula dans une toile et que Guccio fit accrocher à sa selle.
« Et si d'aventure, » dit le prévôt en raccompagnant son hôte, « vous manquiez vous-même à Paris ?»«
Je vous en remercie, prévôt, je m'en souviendrai. Mais sans doute ne tarderez-vous pas à me revoir. Et de toute façon, soyez sûr que je parlerai de vous comme il faut. »
Là-dessus, Guccio repartit pour Naufle, où il remit aux 3 commis, éblouis et salivants, la moitié de son butin.
« Il en sera ainsi chaque semaine, » leur dit-il, « ces choses convenues avec le prévôt. De ce qu'il vous fournira, vous ferez 2 parts, l'une pour vous, l'autre qu'on viendra prendre de Cresset, ou que vous y porterez bien prudemment. Mon oncle s'intéresse fort à cette famille qui est mieux en cour qu'elle n'en donne l'aspect. Qu'on veille donc à la ravitailler.
Paieront-ils ces vivres en espèces ou bien faudra-t-il en augmenter leurs créances ? Demanda le chef du comptoir.
Vous tiendrez un compte à part que je surveillerai.
10 minutes plus tard, Guccio arrivait au manoir et posait au chevet de Marie de Cresset miel, fruits séchés et confiserie.
J'ai remis en bas à votre mère du porc salé, des farines, du sel.
Les yeux de la malade s'emplirent de larmes.
« Comment avez-vous réussi, messire Guccio ? Vous êtes donc magicien ?
Du miel.
Ah !
Du miel. »
Je ferai bien plus pour vous voir reprendre force et pour la joie d'être aimé de vous. Chaque 8 jours, vous en recevrez autant par mes commis.
Croyez-moi, ajouta-t-il en souriant, cet ouvrage moins difficile que de débusquer un cardinal en Avignon.
Cela lui rappela qu'il n'était point venu à Crécy uniquement pour y nourrir les affamés. Et, profitant de ce qu'ils étaient seuls, il demanda à Marie si le dépôt qu'il lui avait confié l'automne passé se trouvait toujours à la même place, dans la chapelle.
« Je n'y ai point touché, répondit-elle. J'avais grande inquiétude de mourir sans savoir ce que je devais en faire.
N'en soyez plus en peine, je vais le reprendre. Et de grâce, si vous m'aimez, ne songez plus à mourir.
Plus maintenant, dit-elle en souriant à son tour.